Mesdames et messieurs, bonjour, Jean-François Martinez, heureux de vous retrouver sur FM+, toujours en direct. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de voyage, nous allons parler convivialité, nous avons parlé du vin avec mon invité Thibaut Rago. Bonjour Thibaut, très heureux de vous accueillir.
Bonjour Jean-François, merci beaucoup pour cette invitation, mais moi aussi très très content d'être,
et ben voilà,
d'être présent avec vous ce matin.
Bon, et ben c'est parfait. Alors, on parlera du vin parce qu'il faudra expliquer à nos auditeurs caviste nomade. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Donc là, vous êtes dans le vin, vous avez travaillé chez Nespresso.
Exactement.
Et vous avez une formation donc professionnelle basée sur le commerce, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Alors comment ça s'est passé tout ça ?
Eh bien, ce qui est assez amusant, c'est que effectivement, j'ai plutôt des études de commerce. J'ai pas mal bougé. C'est vrai que je suis né à Paris, après je suis descendu dans le sud et puis... Après, du coup, mon bac économie sociale, je suis parti à Avignon.
Avignon.
Avignon, très sympa. C'est pas forcément une ville très étudiante.
Mais en tout cas, c'est une ville chargée d'histoire.
Magnifique, hein, voilà.
Magnifique.
Chargée d'histoire. Sur le vin aussi, bien évidemment. Mais à l'époque, je n'y connaissais pas grand-chose. Et puis voilà. Puis après, j'ai continué mes études jusqu'en master en école de commerce à Rouen, à Neoma Business School, qui a fusionné, du coup, ESC Rouen, ESC Reims. Et pour ensuite m'envoler vers... l'Amérique du Sud.
Grand voyageur,
voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Et pourquoi vous avez terminé vos études ou pas ? Vous êtes parti, on va dire pas précipitamment, mais pendant vos études ? Pendant votre cursus ?
Je suis parti pendant mes études, en fait pendant la césure, entre le Master 1 et le Master 2. J'avais fait mon dernier semestre de Master 1 en Chine. Je voulais une destination un petit peu qui changeait. De base, j'avais ciblé le Brésil. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, je veux un pays qui me dépayse, où je peux vraiment connaître une nouvelle culture.
D'accord. Là, on ne parlait pas encore de vin.
On ne parlait pas encore de vin. Mais du coup, pour tracer un petit peu le sujet, effectivement, je pars en Chine. Ensuite, je reviens. Et là, je fais 3 mois et demi en Amérique du Sud, là, en sac à dos. Et c'est là qu'il y a une histoire qui naît. Je fais un périple, du coup, tout seul. C'était un peu mon rêve. Et je me suis dit, bon, voilà, il faut que je le fasse maintenant. C'est le moment où j'ai l'opportunité. L'école me le permet avec la césure.
Mm-hmm.
Donc, du coup, je pars pendant 3 mois et demi. Puis à la fin de mon
Alors, vous partez où ? Partez en Amérique du Sud.
En Amérique du Sud.
Donc, c'est ce que vous vouliez faire depuis que vous étiez jeune.
Voilà.
Alors, quels sont les pays que vous avez découverts ?
Je pars au Brésil, déjà.
On part au Brésil. Ouais.
Rapidement, 15 jours, donc c'est pas énorme. Après, c'est l'Argentine.
Mm-hmm.
Où là, effectivement, je découvre un petit peu les vignes en Argentine. Il y en a, à Mendoza
tout seul,
notamment.
Tout seul.
Et c'était un voyage vraiment plutôt, j'ai envie de dire, solo pour moi-même, pour me retrouver, pour savoir qui j'étais aussi, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me plaisait. Et donc, c'est pas évident aussi de faire des rencontres, mais ça, c'est le but du voyage. Et voilà, je fais l'Argentine, je fais le Chili aussi un petit peu.
Mmh.
Et je reste la plupart de mon voyage, on va dire, au Pérou, 1 mois et demi, un pays que j'ai adoré.
Ouais.
Là, j'ai vraiment tombé amoureux aussi bien des gens, de la culture que...
Plus particulièrement le Pérou ?
Le Pérou, il y a quelque chose de très, déjà très coloré au niveau des vêtements, au niveau des gens. Les gens sont adorables. En fait, c'est vraiment des gens hyper accueillants. On peut s'en sortir pour pas très cher. Vous voyez, je mangeais pour 2 euros, hein, enfin, le midi ou le soir. Donc voilà, c'est un pays hyper abordable. Puis il y a quand même toute une histoire. Enfin, je veux dire, le Machu Picchu, Cusco, tout ça.
Et puis, ça a été fait ? Vous l'avez fait, ça ?
Ça a été fait, oui. Ouais, j'ai fait un trek pendant 3 jours. Du coup, le Salcantay Trek.
Ouais.
Ou un trip voilà, dans les montagnes, tout ça, pour finir à monter les 2000 marches pour aller jusqu'au Machu Picchu.
Ouais.
Donc c'est magnifique. Franchement, c'est super. Je recommande à tout le monde de le faire. Et ensuite, eh ben, parce que c'est courant de le faire en voyage, je fais du coup un volontariat.
Donc, mm-hmm.
Pendant 10 jours, je travaille dans une auberge de jeunesse,
mm-hmm.
en échange du logement et de la nourriture.
Mm-hmm.
Et c'est là que, on va dire, l'histoire commence. C'est que à ce moment-là, je suis au Pérou et je rencontre une Chilienne qui parle français aussi, puisqu'elle était à l'Alliance française. Et c'est là que, du coup, naît une histoire d'amour, d'abord entre deux personnes. Puis à ce moment-là, c'est le Covid qui tombe. Donc moi, je rentre en France.
2020, alors ?
Là, on est en début 2020, exactement.
Début
2020.
Ouais.
Donc, ben, je rentre en France, et puis les frontières sont fermées. Donc, impossible de se voir, évidemment. Moi, à ce moment-là, je finis, du coup, ma césure à La Réunion.
Oui.
Dans mon dernier stage, du coup, qui sera mon dernier stage. Je n'ai pas continué en alternance... parce qu'en fait j'étais hors délai sur mon alternance et du coup j'arrête en fait, je décide d'arrêter, de terminer mon stage dans le coaching et la formation à La Réunion,
ouais.
à la base ce que je voulais faire. Et puis cette histoire d'amour continue de... Voilà,
d'exister.
D'exister exactement, mais à distance. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, du coup je rentre, je suis en France, quoi, je suis à Nîmes exactement. Et là je me dis bon, J'ai deux choix. Soit je reste ici, je n'ai pas grand-chose qui me retient, soit je pars au Chili, la rejoindre, de base pour 3 semaines. Et puis du coup, je pars, je saisis une brèche. Et pour la petite anecdote, c'est assez amusant parce que j'étais à Super U à l'époque. Je quitte mon emploi. C'était le mercredi, début janvier. Il me restait 15 jours de contrat, donc j'aurais pu continuer. Et je me dis, une intuition me dit, il faut que je parte maintenant. Je prends mon billet pour le samedi, et le vendredi soir, annonce de Jean Castex, le premier ministre de l'époque, qui dit que les frontières vont être fermées dans la nuit de samedi à dimanche. C'est plein Covid, on sait que c'est une situation délicate. Et du coup, le flip jusqu'au bout de me dire, est-ce que je vais réussir à prendre mon avion ? Oui, j'ai réussi à prendre mon avion, les frontières étaient fermées, mais j'ai quand même pu passer.
Vous étiez décidé, Thibaut.
Décidé.
Très décidé.
Décidé, vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, quand votre cœur parle, il faut l'écouter, c'est hyper important. C'est quelque chose qui me...
Aller au bout de sa passion.
Exactement.
Au bout de ses idées.
Au bout de ses idées, voilà, c'est ça. Ouais. Et peu importe si c'est raisonnable ou pas, si l'intuition, si le cœur parle, il faut l'écouter. Ça, c'est les messages de la vie, on n'y peut rien, voilà, c'est comme ça.
Il y a une très belle chanson d'ailleurs qui reflète bien ça, c'est-à-dire aller au bout de ses idées, au bout de ses passions.
J'irai au bout de mes rêves, Jean-Jacques Goldman.
Oui, entre autres. Hein. Oui,
Par exemple, voilà. Ouais.
Mais alors le Covid, donc vous l'avez surmonté.
Exactement.
Hein, d'accord. Ouais. Et vous repartez donc au Chili.
Au Chili, du coup, voilà.
Rejoindre Mademoiselle.
Voilà, Paola qui s'appelle du coup.
Paola.
Pour 3 semaines de base, en fait, je pars en vacances.
D'accord.
Et puis. J'arrive là-bas et je me plais énormément. Et au bout de 3 semaines, je fais non, en fait, je vais rester. Je vais rester, mais à une condition, il faut que je trouve un travail. Et puis, de fil en aiguille, voilà, je tape à quelques portes. Et là, sa tante avait été en couple avec un œnologue français.
Ah !
Et c'est là que l'histoire du vin arrive. Elle était en couple, elle donne mon CV à ce fameux œnologue français qui passe mon CV à un couple de vignerons. Auprès desquels je vais travailler pendant 1 an et demi, du coup, découvrir le monde du vin là-bas, au Chili. Donc, moi, j'y connaissais pas grand-chose. Bon, après, vous savez, on a tous un peu une culture du vin, de la gastronomie. En France, c'est quand même quelque chose.
Tout à fait d'accord avec vous, et qui est de plus en plus forte.
Ah, voilà.
De plus en plus forte, à mon avis. C'est sur la gastronomie et sur le vin. Je trouve que. On va en parler, mais le Languedoc-Roussillon n'est pas que la deuxième superficie mondiale en vin. C'est aussi des vins de qualité.
Exactement.
Et c'est vrai qu'on revient un peu à tout ça.
Ouais, et pour rebondir là-dessus, je trouve que le Languedoc-Roussillon prend une vraie ampleur. Enfin, on en reparlera, mais c'est incroyable. Oui, totalement.
Donc, votre découverte, vos premiers pas, c'est au Chili, avec ce monsieur Log.
Avec Garage Wine Co., du coup, le nom de l'entreprise. Ouais. Donc, lui est canadien, elle est chilienne.
Mm-hmm.
Et moi, je suis le petit Frenchie au milieu de tout ça.
Mm-hmm.
Ils ont commencé dans leur garage, hein, d'où le nom de l'entreprise, Garage Wine Co.
D'accord.
Et ils me transmettent tout, en fait. Et je vis vraiment dans une PME, voilà, avec eux. Donc, je découvre les vendanges. On est vraiment dans des communautés locales. Donc, au fin fond du Chili, c'est à 500 km au sud de Santiago. C'est des communautés qui ont... Voilà, c'est des maisons, c'est la campagne. C'est-à-dire que c'est des maisons, il n'y a pas de carrelage, il n'y a presque pas de lumière. Ils ont des poulets, des pintades qui gambadent, le potager. Enfin, c'est vraiment à... ils ont limite pas de connexion téléphone.
Ouais,
quoi.
C'est le paysage vraiment rural comme on avait, nous, en début du siècle.
Exactement. Ouais, c'est ça. Et donc je découvre ça. Alors, faut savoir que l'immersion est un peu compliquée au début, puisque je parle espagnol, oui, mais parler chilien, c'est comme si vous disiez que vous mettiez un étranger dans la Creuse. C'est un peu compliqué au début pour comprendre l'accent.
C'est un peu compliqué, oui.
Donc petit à petit, voilà, il faut s'habituer un petit peu. Et donc je découvre, voilà, je fais les vendanges, je vais à la bodega, du coup, à la cave, expérimenter. Ils m'expliquent tout. Et puis voilà, puis au fur et à mesure, voilà, les vendanges se terminent, ils m'expliquent un petit peu, on fait des assemblages, enfin je les suis, voilà, pendant leur process.
Alors c'est quoi ? Vous parlez d'assemblage, c'est quoi ? Mm-hmm. C'est du cépage, du rouge et du blanc ou c'est uniquement du rouge ?
Alors, les deux.
Il y a les deux ?
Eux, ils travaillent avec les deux. Le cépage principal au Chili, c'est le Carmener. C'est un cépage qui est originaire de Bordeaux.
Ah d'accord.
De base.
Oui.
Et qui n'existe plus en France, qui a été exporté il y a 300 ans. Maintenant. Mais au Chili, en fait, il se plaît énormément vu la chaleur.
Mmh.
En fait, le Carmener a besoin d'une longue maturité et du coup d'un climat qui est assez chaud. Et en France, on ne l'a pas suffisamment.
Alors justement, à propos de ça, j'ai fait quand même quelques émissions sur le vin. Et ce qui en est sorti, c'est que de plus en plus de viticulteurs français vont reprendre des cépages alors chiliens, grecs, portugais, qui donc supportent plus la chaleur que des cépages traditionnels.
Exactement. Ouais. Ah ouais, c'est tout le sujet, notamment à Bordeaux. Hein. Pour le Merlot, par exemple, qui est peu résistant au changement climatique. Et là, du coup, on va réimplanter du Malbec du sud-ouest.
Du Malbec, d'accord.
Qui est très présent en Argentine, notamment, pour justement parce qu'il est plus résistant. Et le remettre à Bordeaux, et petit à petit, on va voir qu'en fait, avec tout ce qui se passe, la filière viticole, tout ça, c'est en train de d'évoluer, ou c'est comme même les pétillants, les champagnes qui sont en train aussi de... La région souffre un petit peu, donc en Angleterre, on voit aussi l'apparition de nouvelles boissons, on va dire, qui marchent bien, quoi.
Ouais, totalement. Donc, au Chili, alors, on travaille un peu à la française, comment ça se passe? Ou c'est beaucoup plus rudimentaire?
Alors, on travaille...
Pour les amis viticulteurs chiliens.
Alors, on travaille beaucoup comme à la française, parce qu'il y a énormément Il y a une influence quand même. Et il y a beaucoup d'œnologues français qui sont partis là-bas, qui ont donné énormément de techniques et qui transmettent en fait, qui ont transmis. Et il se passe ça dans beaucoup de pays. En fait, les Européens ont vraiment transmis cette culture du vin à leur manière. Ils le font à leur manière. Mais globalement, ça reste assez classique dans les méthodes de vinification et tout ça. Donc là, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, beaucoup de barriques viennent soit des États-Unis, soit d'Europe. Hein.
D'accord.
Enfin, les principaux fabricants de barriques, ouais, totalement.
Donc là, vous découvrez le vin, le travail du vin, et là vous restez au Chili combien de temps?
Un an et demi au total.
Un an et demi.
Un an et demi au total.
D'accord.
De base, c'est pour attendre que du coup Paola, mon ex-copine, finisse ses études. Mm-hmm. Et en fait, ce qui se passe avec ce monde du vin, c'est que c'est une vraie rencontre. C'est que je découvre que c'est un monde riche. C'est un monde passionnant. C'est un monde où en fait, on en apprend tous les jours. C'est un monde où on côtoie des gens. Où il y a l'influence de la terre, il y a l'influence du climat, il y a l'influence des animaux aussi. Le travail de la vigne, il est hyper important. Parfois, il y a des thématiques au niveau de l'eau. L'influence à la cave aussi. Je veux dire, selon qu'on mette telle ou telle température, ça va influer sur le vin. Si on fait tel ou tel pressurage, ça va influer ou pas. Chaque année, c'est différent. Si on attend un petit peu, si on le met en barrique, ça va influencer la complexité du vin. Enfin, les paramètres, ils sont infimes pour réussir à créer une bouteille qui est en fait unique chaque année.
On s'aperçoit, comme dans l'agriculture aussi traditionnelle, que c'est le temps, la météo, qui en somme fait tout.
Exactement. Hein? Dame nature.
Dame nature.
La Pachamama, comme on appelle là-bas,
ouais.
qui est hyper importante. Et on se doit de travailler avec, en fait, main dans la main.
Et le fait qu'il fasse très chaud, est-ce qu'au niveau de l'eau, pour la viticulture... Il y a eu des problèmes ou pas? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils font comme nous des récupérations? Alors, je pense qu'il peut moins qu'en Europe. Est-ce qu'il y a aussi ces fameuses bassines naturelles, hein,
il y en a.
Bien d'accord, naturelles,
ouais, bien sûr.
Qui sont installées, qui sont créées au Chili?
Il y en a, oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a effectivement des bassins de rétention. Ils utilisent parfois des ruisseaux, donc des systèmes d'irrigation, du coup.
Oui.
Et certains décident de ne pas l'utiliser. En fait, il faut savoir que la vigne, elle s'épanouit. Quand il n'y a pas d'eau, comme ça, ses racines vont plonger en profondeur.
Ouais.
Et du coup, ça va solidifier ses racines et ça va lui donner de la résistance pour résister aux maladies, pour résister aux aléas climatiques. Donc en fait, c'est bien quand une vigne manque un peu d'eau. Volontairement, c'est positif.
D'accord.
Et après, en fonction des terroirs, selon si c'est des terroirs sablonneux ou des terroirs plutôt argileux, enfin après, la vigne s'épanouit différemment.
Là, vous étiez dans quel coin du Chili? Plutôt côté Atlantique ou côté Pacifique?
Alors, plutôt du coup côté Pacifique. En fait, le Chili, c'est vraiment un long pays. Hein,
c'est un long pays.
6 000 kilomètres.
Ah, 6 000 kilomètres.
Voilà, et je crois que c'est 400 ou 500 hein, seulement de largeur.
De largeur.
Donc c'est très très haut,
c'est très étroit
exactement.
Ouais. Ouais.
Et il y a des degrés de température. Vous avez le désert d'Atacama au nord.
Oui.
C'est un désert les plus secs du monde. Mm-hmm. Et au sud, c'est la Patagonie, donc c'est les glaciers.
D'accord.
Donc en fait, il y a vraiment des aléas climatiques qui sont hyper différents et des terroirs totalement
d'accord.
différents.
Et là, vous étiez où, vous?
Plutôt partie sud, on va dire. Trois quarts sud. Trois quarts sud.
Valparaiso, c'est quoi?
Voilà, encore plus bas même.
Encore plus bas encore que plus bas. Valparaiso.
Ouais, exactement. Ouais. Entre vraiment Concepción et Valparaiso.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc, de la chaleur?
Et beaucoup de chaleur. Beaucoup
c'était
de chaleur.
Quoi? Plutôt du sol sablonneux
Argileux. Plutôt argileux.
Ouais.
Argileux-calcaire.
Ouais.
Un peu de sablonneux, mais majoritairement argileux-calcaire. Et ça, en fait, là-bas, ce qu'on travaillait, vous me parliez des cépages tout à l'heure, on retrouve, en tout cas moi, ceux avec qui je travaillais, du Carignan, du Merlot, notamment dans la vallée de Maipo, donc au sud de Santiago. On retrouve de la Grenache, Garnacha, là-bas. La Syrah, évidemment. Et pour les blancs, on travaillait avec du Sémillon, D'accord. On retrouve à Bordeaux.
Ouais.
Oui. Le Camanère, comme je vous disais, mais nous, on n'en faisait pas tant que ça. Ils n'en faisaient pas. Il y a du Pinot Noir aussi.
Du Pinot Noir.
Et évidemment, du Chardonnay. Ça, le Chardonnay, c'est un cépage qui s'épanouit sur énormément de terroirs. Donc, il a la particularité, lui, d'être planté partout sans grande problématique.
Ouais. D'accord. Eh bien, nous allons faire une pause musicale. Alors, Thibaut, vous avez choisi comme chanson
Sunshine Reggae de Laidback.
Alors, est-ce qu'il y a un message à faire passer?
Oui, il y a un message. Le message, en fait, c'est... pour tout vous dire, c'est le message de... Quand on écoute cette musique, moi, ça me fait penser à la liberté.
Oui.
Un moment de... C'est une musique qui est assez chill, qui est assez lente. Et donc, en fait...
Très cool.
Très cool. Voilà, très cool. Et je pense que la vie, c'est ça, c'est se balader tranquillement et apprécier la vie, quoi.
Eh bien, c'est très bien. On écoute la chanson et on est toujours sur FM+.
Let the good vibes get a lot stronger.
Voilà, après cette très 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 belle chanson, d'ailleurs tout le studio était dansé, donc c'est une chanson très cool et qui fait qu'on démarre la semaine très 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 bien. Toujours, et c'était le choix donc, de Thibaut Rago, qui est donc mon invité. Et Thibaut, on s'est arrêté donc à cette découverte au Chili du vin, toi et le vin.
Exactement. Ouais.
Donc tu as continué après.
Oui,
alors,
totalement.
Tu es rentré en France après ces 1 an et demi passés au Chili, donc où tu as appris, où tu as vu ce que c'était le vin, dans l'œnologie, hein, la transformation aussi, donc du raisin en vin. Donc tu es rentré en France.
Et donc je rentre en France, effectivement.
Voilà. Et cette idée, donc, a toujours germé.
Cette idée, en fait, de me dire, ah oui, j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert une passion, j'ai découvert quelque chose de fascinant, et j'ai envie de continuer et d'apprendre un petit peu le vin français, en fait. Mmh. Et donc, j'ai un concept qui m'est proposé de dégustation à domicile. Où en fait je rencontre un ami avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres projets qui me dit voilà, le concept est simple, on te fournit les vins, on te fournit le matériel, toi tu organises des dégustations et tu prends une commission sur les ventes que tu fais lors des dégustations à domicile. Donc très convivial, une douzaine de personnes, une soirée entre amis, c'est des moments super. Et puis je fais ça pendant quelques temps et y a ça, des vins en fait ils étaient plutôt du sud-ouest ou de Bordeaux. Donc pas trop des vins de la région. Et à force d'en discuter de la région, moi du coup en août 2022 je m'installe sur Montpellier. Et puis je connais pas grand chose à la région. Et puis à force de discuter avec les gens, tout le monde me dit mais t'as pas de Pic Saint-Loup, tu terrasses du Larzac, etc. Et je me rends compte qu'en fait il y a un petit décalage et que les gens recherchent vraiment du local. Bon puis de fil en aiguille je commence à faire ma tambouille, aller rechercher un petit peu quelques vignerons à côté, des producteurs locaux. Et puis bon, l'entreprise pour laquelle je travaillais en freelance hein, a fermé ses portes. Le concept n'a pas marché comme c'était prévu. Du coup,
Pourquoi ça n'a pas marché ?
Ça n'a pas marché parce que il y avait des problématiques de trésorerie, parce qu'ils avaient d'autres espérances en termes de chiffre d'affaires, de revenus. Et finalement, ça se développait un petit peu en réseau. Et ça n'a pas marché comme on voulait. Il n'y a pas eu assez d'ambassadeurs en fait, qui représentaient la marque. Donc du coup, ils avaient investi énormément de stock. Et au final, ça n'a pas pris correctement comme ils espéraient. Mais ce n'est pas grave. Ça a été un tremplin pour moi et pour d'autres personnes aussi.
Parce que le concept est très intéressant, puisqu'on voit de plus en plus de l'œnologie, c'est-à-dire des randonnées festives. On le voit de plus en plus, tout ça. Ou des randonnées en VTT pour justement faire découvrir les vignobles. Donc ça, c'est une bonne chose. On est vraiment dans le tempo, là.
Ah ben totalement. Ouais. On est dans le tempo et on est dans le partage, en fait, encore une fois. Le partage, la découverte. Et aujourd'hui, en fait, et c'est ça que je m'attelle à dire, c'est que le monde du vin, mais comme la gastronomie, comme les bonnes choses, c'est du partage. C'est vivre une expérience. Et aujourd'hui, si vous regardez toutes les entreprises qui créent des expériences dans l'événementiel, qu'est-ce qu'elles veulent créer chez les personnes ? Un souvenir. C'est ça qu'on veut créer, en fait. On veut créer une émotion. On veut créer quelque chose de beau, de sympathique, de plaisant, auquel on s'en souvient et qu'on a partagé avec des gens. Et ça, le monde du vin, c'est pour ça fascinant. Quand vous êtes à table avec un ami ou avec une tablée en famille, il y a toujours une bouteille de vin qui est là. Et on se rappelle ce moment en fait, convivial, ce moment de partage. Et ça, c'est génial. Et c'est ce que j'ai envie de créer en fait pendant mes animations, pendant mes moments. Et donc, Atuki, donc c'est le nom de l'entreprise qui ferme. Moi, je me dis, ok, je vais continuer le concept à ma manière, en sourçant des producteurs locaux, des petits producteurs locaux. Moi, je suis spécialisé dans ça, on va dire. Je vais chercher des pépites, c'est comme ça que je les appelle.
En Languedoc-Roussillon ?
Dans Languedoc-Roussillon, voilà. Et je me fais appeler, je trouve le terme caviste nomade.
Ouais.
Voilà. Parce qu'en fait, j'aime bien l'idée du nomadisme. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé, je continue de voyager encore. Et donc, le fait de dire, ok, je suis un caviste, donc je propose mes propres références, mais j'ai pas de boutique physique. Mon stock, il est chez moi, en fait. Et je me déplace chez le particulier en entreprise. Maintenant, je fais aussi en entreprise, team building, after work. Je bosse pour les comités d'entreprise, notamment pour les fêtes de fin d'année. Et en fait, c'est de dire, voilà, je me déplace, c'est une solution clé en main. Je fais une animation. J'anime vos équipes, je crée un moment hors du temps, une parenthèse hors du temps, pour créer un souvenir.
C'est joli ça. L'expression est très jolie. Alors, chez les particuliers aussi, alors comment ça se fait ? Le particulier t'appelle, donc je suppose qu'au départ c'est la connaissance des vins et la convivialité,
voilà,
c'est ça ?
Exactement. En fait, au début, comment j'aborde la soirée ? C'est une soirée qui dure 2 heures à peu près, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « Ah ben voilà, je vais me réunir avec des amis » ou « J'invite des amis », on est une 10-12 personnes environ. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une dégustation à l'aveugle. Ça, c'est très important pour moi.
Alors, quand tu dis à l'aveugle, c'est quoi ?
À l'aveugle, c'est la bouteille cachée.
D'accord.
Donc, c'est pas des verres. C'est des verres transparents. Hein. Comme ça, on peut étudier les visuels, olfactifs et gustatifs.
Oui. Oui.
Mais par contre, la bouteille est cachée. Je suis très attaché à ce qu'on ne voit pas l'étiquette pour ne pas avoir d'a priori sur ce qu'on voit.
Ouais.
Et ça, c'est hyper important. Comme ça, on peut vraiment mettre tous nos sens à découvrir un petit peu le vin. Donc, c'est 4 bouteilles de vin à l'aveugle. On déguste. J'explique toutes les bases de la dégustation.
Mmh.
Premier nez, deuxième nez, arôme primaire, secondaire, tertiaire, etc. Et j'explique l'histoire de chaque vin aussi.
Moi, ça, c'est joli, ça. C'est bien.
Et ce que je veux, moi,
ça, c'est
promouvoir le local. C'est-à-dire que là, typiquement, la première personne avec qui j'ai travaillé, c'était un Pic Saint-Loup. Il se trouve que je l'ai rencontré parce que c'est une Chilienne. Elle a permis notamment à rencontrer mes deux patrons au Chili. Elle vit en France maintenant, elle vit au Matel avec son mari. Et son mari a créé une cuvée, la Veine des Nymphes. C'est un Pic Saint-Loup, du coup, au Matel. Alors, eux, ils n'ont pas de caveau. Hein. Pas de caveau, pas de...
C'est vraiment le petit artisan de la viticulture.
Mais quand je vous dis petit artisan, c'est-à-dire qu'ils ont 4 hectares, c'est un domaine familial.
Ouais.
Il va dans le garage, il enfile ses bottes et il presse à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est... lui, il est œnologue consultant.
Ouais.
Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, pendant la vinification, quand c'est la période, eh ben, il va dans le garage, il a ses cuves, il a ses barriques, et puis voilà, il fait sa vinification. Puis ensuite, il embouteille, et voilà, c'est une cuvée, 4000 bouteilles, hein, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit, et moi, je vais chercher les cartons chez lui. Donc en fait, voilà, c'est ça, il y a beaucoup de proximité, et moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Ça ne m'intéresse pas de travailler avec des grands qui sont déjà ultra présents, ils ont déjà leur cible, ils ont déjà leurs clients. Moi, je veux vraiment mettre en lumière, si vous voulez, des petits producteurs qui ne sont pas forcément connus. Allez sourcer des pépites, en fait. Et il y en a énormément dans le coin. Que ce soit dans les Cévennes, que ce soit... j'ai découvert un Côte de Thau aussi, il n'y a pas si longtemps, parce que c'est une appellation très peu connue.
Et... Côte de Thau, oui. Oui, c'est très peu connu, c'est vrai.
Très peu connu, et c'est une pépite. Ouais. C'est une pépite, voilà. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il y a, justement, sans déflorer, qu'est-ce qu'il y a comme pépite en Languedoc-Roussillon ? Parce que c'est vrai qu'on on a la chance, on a, comme tu disais, le Larzac, Pic-Saint-Loup. On a les Costières du Gard, on a de l'autre côté le Faugère,
on a Minervois.
Le Minervois. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Et dans les PO aussi, il y a le Maury, je crois.
Maury, Bagnouls.
Ouais. Le Bagnouls.
Il y en a énormément. En fait, là, on parle d'appellation.
Ouais.
Il y a une appellation aussi qui est très très connue en France aujourd'hui, c'est l'IGP Pays d'Oc.
Oui.
Sa particularité, c'est qu'elle est étiquetée donc, sous IGP Pays d'Oc, mais c'est plutôt des cépages qu'on met en avant. Plus que des appellations et un cahier des charges. Ce qui est intéressant pour débuter, c'est que vous allez avoir des 100% chardonnay, par exemple, des 100% viognier, et pour s'éduquer au palais, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que du coup, on peut trouver la typicité, et c'est ce que je fais en dégustation, de dire, ok, ça c'est la typicité du chardonnay, ça c'est la typicité de la syrah, plutôt poivrée, plutôt épicée, et du coup, se rappeler un petit peu, se dire, ok, ça c'est le marqueur, et se créer des référentiels en tête. Voilà.
D'accord. Alors après, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a à la fin de cette réunion, il y a de la vente où les gens vont directement chez le producteur pour acheter leur choix. C'est toi qui fais l'intermédiaire.
C'est moi qui fais l'intermédiaire. En fait, donc voilà, la soirée se passe, ça dure 2 heures, on déguste du vin, c'est une soirée conviviale du coup. Et après donc voilà. Souvent, les gens amènent quelque chose à manger, comme ça pour faire l'accord mets vins. Je peux m'occuper de l'accord mets vins, effectivement. Hein, voilà. C'est une soirée, il faut compter en moyenne 20 euros par personne. Hein, comme ça, je me déplace aux alentours de Montpellier. Donc, c'est hyper raisonnable pour la qualité des vins qu'on déguste. C'est des bouteilles entre 10 et 25 euros, hein, en général, que je mets.
C'est abordable.
Et c'est hyper abordable. Non,
c'est hyper abordable.
Dans la région, ça peut être hyper abordable. Donc, voilà. Et à la fin de la soirée, effectivement, on a la possibilité de commander, du coup, pour avoir du stock chez soi. Je fais des cartons mix, etc. Je m'arrange, j'ai mon terminal de paiement, voilà. Et effectivement, moi, c'est hyper important pour moi d'être prix domaine. C'est-à-dire que les gens n'ont pas intérêt plus à aller au domaine, même si je les invite à aller voir, parce que c'est toujours hyper enrichissant.
Bien sûr.
Mais moi, je suis prix domaine, donc j'achète prix pro et je revends au prix domaine. Comme ça, au moins, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà.
D'accord. Donc là, maintenant, c'est ton activité.
Voilà, exactement.
À temps plein.
À temps plein, exactement. Voilà. J'ai d'autres projets en parallèle, notamment dans le voyage. Voilà. Je développe une plateforme de voyage à côté.
Toujours au Chili ? Non.
Alors en France, oui, en France et dans le monde d'ailleurs. Mais l'idée, voilà, c'est j'aime bien avoir en fait plusieurs projets. Puis des fois, je fais des balades non touristiques. Vous voyez, enfin, j'ai plusieurs contacts aussi pour.
Oui, mais toujours dans la région ?
Toujours dans la région.
Toujours dans la région.
Ouais. Toujours dans la région.
Et là, est-ce que tu sens, toi, Thibaut, que, on en a parlé en début d'émission, que les gens reviennent petit à petit au rural.
Ouais, totalement.
Dans la gastronomie, on le voit de plus en plus au niveau du vin. Et en plus, tu as même pas 30 ans, c'est-à-dire que tu fais partie d'une génération, en somme, qui a très très peu été sensibilisée par le vin. Je me rappelle, ma génération, on buvait du vin, même nous les jeunes, même si on mettait du vin, de l'eau dans le vin, c'est le cas de le dire, ouais. On était quand même éduqués, et puis il y avait énormément de vignobles, beaucoup plus que ce qu'il y a. Mais là, je vois que tu es jeune, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent justement dans ça, à l'esprit du vin, de la convivialité.
Ça, en fait, ça a énormément changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, on avait en famille, il y avait toujours beaucoup de vin, etc. Aujourd'hui, la consommation est différente. Elle est différente parce qu'en fait, on boit des vins plus jeunes, des vins frais. Ce qu'on appelle des vins glouglous, des vins de soif, qui se boivent facilement, qui sont très jeunes, et on ne va pas prendre le temps, finalement, de le garder, à moins que ce soit des grands amateurs de vin. Mais comme à l'époque, en fait, on ne va pas garder des bouteilles. Aujourd'hui, on l'achète chez le caviste, on la boit le soir même. Donc, c'est en ça que la consommation évolue. Et aujourd'hui, la filière viticole, elle est un peu en difficulté à ce niveau-là parce que la bière a pris le pas aussi. Mais pour autant, effectivement, les nouvelles générations s'intéressent et la filière viticole est en train de se rénover, en train de se remobiliser pour justement s'adresser à cette nouvelle clientèle. Ou en fait, alors, à boire des vins jeunes.
Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas justement une connotation entre le vin et la bière ? Il ne peut pas y avoir un produit qui...
Il y a des synergies, ouais, c'est clair.
Hein ?
Il y a des synergies totalement. Je pense que c'est un moment, quoi qu'il arrive, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage.
Ouais.
Et à partir de là, en fait, le plus important, c'est de passer un bon moment. Moi, je dis toujours, c'est ça, en fait, qu'on soit seul, entre amis, à plusieurs. C'est de passer un bon moment, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on boit. Et surtout, moi, j'ai envie de dire, la qualité. Mmh. Moins, mais mieux. Ça, c'est primordial. C'est quelque chose de fondamental pour moi. Et je préfère mettre un peu plus cher, mais avoir de la qualité. C'est important pour la santé, pour du bio, du biodynamie, ou pour des producteurs qui vont bien travailler, plutôt que d'acheter du bas de gamme. Et au final... Aujourd'hui, la santé, on vit avec notre corps jusqu'à la fin de nos jours, hein, donc c'est quand même important de bien choisir.
Bien sûr. Alors, il y a eu deux mots directeurs. Il y a eu la découverte du vin, et puis il y a eu la convivialité. Il nous reste à peu près 2 minutes d'émission. Ça représente quoi pour toi, la convivialité ? Parce que dans le monde où nous vivons, où tout change en permanence, et d'une façon très très vite, qu'est-ce que ça représente pour toi, la convivialité ?
La convivialité, pour moi, c'est un moment, en fait. C'est un moment de partage. C'est un moment chaleureux qu'on passe avec des personnes autour de nous et qui vont nous rappeler des souvenirs, en fait. Et c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, quand on pense à ce qu'on a vécu, quand on pense à ce qu'on vit, c'est des souvenirs. C'est que ça. Merci. Et la question, c'est est-ce que c'est des beaux souvenirs ou pas ? Alors, autant en avoir un maximum.
Alors, Thibaut, merci pour cette conclusion. On peut te retrouver comment ? Sur Internet, dis-nous tout.
Oui, on peut me retrouver alors sur Instagram, Caviste Nomade.
Oui.
Tout au singulier.
Oui.
Mon site internet est en cours de création, donc ce sera bientôt cavistenomade.com.
D'accord.
On peut me retrouver sur LinkedIn, et sinon par téléphone, par mail, cavistenomade@gmail.com.
D'accord.
Et sinon après vous avez toutes les informations sur Instagram, sur
parfait. LinkedIn. Le prochain voyage, c'est prévu pour ?
C'est prévu pour, ce sera probablement les Pays-Bas, Amsterdam, pour les 10 ans avec mes meilleurs amis du coup, en septembre.
Ok. Voilà. Autour d'une bière ou autour d'un vin, Amsterdam ?
Autour d'une bière, autour de bon fromage et peut-être autour de vin, parce qu'il y a du bon vin même à l'international.
Ok, merci beaucoup Thibaut, bonne chance à toi et fais ce que tu as envie de faire. Hein, voilà, moi je vous retrouve demain pareil en direct dans la matinale. Je remercie ma collègue Léonie qui était à la technique, et vous savez, sans nos amis techniciens, et bien nous les animateurs, on ne ferait pas grand-chose. Voilà, donc merci encore à eux. Très bonne fin de journée à vous. Et je vous retrouve demain donc pour une nouvelle émission. Merci, à bientôt, au revoir.